C'est bon. Donc, ce matin, j'ai vraiment hâte de continuer la série qu'on a commencée sur dévoiler le mystère d'un mariage réussi. Et on a dit beaucoup de choses déjà la semaine passée et la semaine avant, et des choses importantes. On a vraiment posé le fondement de ce sujet. On a parlé de l'importance du mariage, du plan de Dieu pour le mariage. On a dit que vraiment le mariage, c'est le symbole de Jésus-Christ et l'Église. Et que la raison pour laquelle on a besoin d'avoir un bon mariage, c'est pas juste pour soi-même. C'est pas parce qu'on on a besoin d'être heureux et comblé et béni dans la vie. Ça, c'est tout vrai et c'est ça qu'on veut. Mais on voit que c'est beaucoup plus profond que cela. Qu'au début, Dieu a créé Adam et Ève, il les a créés à son image, à sa ressemblance. Et pour nous de voir vraiment l'image de Dieu, on a besoin de voir l'image de Dieu dans l'homme et dans la femme. Et que dans le mariage, on a un moyen d'exprimer au monde, aux gens qui ne connaissent pas Dieu, les gens qui n'ont pas encore, eux, la chance de recevoir la vie éternelle, on a une occasion de leur montrer la réalité de Dieu, qui il est. Et qu'est-ce qu'il a fait pour nous dans son alliance d'amour? Amen? Amen. On a dit que de la même façon que Dieu a dû envoyer son Fils. Et en fait, il y a le verset, on va juste commencer là, avant d'aller plus loin. On va relire notre verset clé en Éphésiens 5, verset 31. Encore, c'est la parole de Dieu qui dit, Éphésiens 5, 31. « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. » Et les deux deviendront une seule chair. Tout le monde dit une seule chair. Donc ça, c'est vraiment la définition de Dieu du mariage. Aujourd'hui, dans notre société, il y a beaucoup de gens qui veulent donner une nouvelle définition au mariage. Ils veulent changer la définition. Mais si on regarde dans la parole de Dieu qui est établie pour toujours dans les cieux, on voit que c'est vraiment un homme avec une femme qui sont liés ensemble par une alliance qui ne peut pas être rompue. Amen? Et c'est important. Un homme doit quitter sa mère, son père, s'attacher à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Mais je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Donc, on voit que le mariage est vraiment un mystère. Et c'est un mystère qui peut être compris quand on comprend qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour son Église. Parce que de la même façon qu'un homme doit quitter son père et sa mère, Jésus-Christ a dû quitter le ciel. Il a dû quitter le pain, il est venu chercher, poursuivre son épouse qui est l'Église de Jésus-Christ. Il a donné sa vie pour elle, avec passion, avec amour. Il a versé son sang pour racheter pour lui-même une épouse qui s'appelle l'Église de Jésus-Christ. Amen. Et les deux sont devenus une seule plante. Maintenant, Jésus est la tête, nous sommes le corps, et je suis pour éternité lié à Jésus-Christ. Amen? Et il n'y a rien qui peut nous séparer, parce que je suis en alliance avec Dieu. Et une alliance, c'est vraiment une chose forte. On ne peut pas rompre une alliance, sauf par la mort. Dans une alliance, Dieu a dit, « Tout ce que je suis et tout ce que j'ai t'appartient. » Et l'Église répond en disant, « Tout ce que je suis et tout ce que j'ai t'appartient, Seigneur. » Amen. Tout ce que nous avons, nous l'avons en commun. Nous sommes plus deux, mais nous sommes une seule chair avec le Seigneur. De la même façon, le 15 juin 1985, Tania et moi, on a échangé les vœux, on a échangé les alliances, on a fait des promesses. Et j'ai dit à Tania, tout ce que je suis, dans le fond, qu'est-ce que j'ai dit, c'est tout ce que je suis et tout ce que j'ai t'appartient. Et en retour, elle a dit la même chose à moi. Et depuis cette journée-là, nous sommes devenus une seule chair. Amen. On n'est pas deux personnes qui vivent sous le même toit, mais on est vraiment plus que ça. Dans notre esprit, dans notre âme et dans notre corps, nous sommes devenus une seule chair. Amen. Et c'est merveilleux, il y a une alliance puissante. Et on a parlé de ça la semaine passée, on a parlé du fait qu'on a besoin de voir le mariage comme il faut, et de savoir que si je garde mon alliance avec Tania, je vais être béni, elle va être bénie, mes enfants vont être bénis, mais le monde entier va être béni parce qu'ils vont voir en nous un exemple de Dieu et son amour pour l'Église. Et je suis convaincu que mon mariage peut être une lumière dans ce monde ténébreux. Mon mariage peut être le sel dans un monde pourri. Amen? Votre mariage peut être la lumière, le sel. Votre mariage peut amener les gens à Jésus-Christ. Votre mariage peut protéger l'image de Dieu sur la planète jusqu'à ce que Jésus vienne. Donc, c'est spirituel et à la fois naturel. On a des vérités parallèles qu'il ne faut pas oublier. Et c'est ça qu'on a vu la semaine passée, l'importance de vraiment honorer notre alliance et d'être fidèle à notre alliance. On a parlé vraiment de l'amour inconditionnel, parce qu'on a dit que notre but dans le mariage, c'est d'avoir un mariage qui est long et heureux. Pas juste long et souffrant. Long et douloureux. Long et... Non, c'est long et heureux. Ça fait des années que je suis marié et je suis content. Je suis plus en amour avec mon épouse aujourd'hui qu'il y a 20 ans et ça, c'est la vérité. Notre mariage est 1000 fois mieux aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Mais ce n'est pas comme ça par hasard. Ça a pris beaucoup de travail. On a eu des moments difficiles, on a eu des défis, on a eu des moments où on n'avait plus des émotions, on n'avait plus le goût. De faire les bonnes choses ou de dire les bonnes choses. Est-ce qu'il y a des gens qui savent que l'amour inconditionnel, c'est une décision, ce n'est pas une émotion? On prend une décision d'aimer quelqu'un. Et il y a des matins quand on se réveille et on n'a plus vraiment des émotions, des sentiments, on n'a plus des frissons, on voit plus des feux d'artifice, on voit plutôt les bombes atomiques. C'est comme... Je sais pas vraiment, et c'est pas une étincelle d'amour, mais c'est plutôt la mèche d'une bombe qui est prête à exploser. On sait que c'est quoi. Moi, j'ai eu ces émotions, elle a eu ces émotions, mais on a pris une décision il y a 20 ans qu'on a condamné la porte de panique, on pourrait dire, la sortie en arrière. La porte en arrière, ça n'existe pas dans notre mariage. Le mot divorce, c'est pas dans notre vocabulaire. On ne dit jamais les choses comme on va faire les valises, on va aller voir maman ou quoi que ce soit. C'est même pas une option. Et dès le début, c'était jamais une option. Et c'est pourquoi on a eu un mariage qui est long. C'est pas tellement long, 20 ans, c'est juste le début. Mais quand même, pour aujourd'hui, c'est long, n'est-ce pas? Pour aujourd'hui, surtout parce qu'on avait 18 ans et tout le monde disait, les statistiques, c'est vrai, 99% des couples qui se marient avant l'âge de 19 ans vont se divorcer en dedans de 24 mois. Donc 20 ans, c'est quand même plus que 24 mois, n'est-ce pas? On a fait un peu de progrès et toute la gloire revient à Jésus. Parce qu'on a bâti sur le fondement de son amour et de son alliance, on a compris sa fidélité envers nous, on a compris que notre alliance avec Jésus est éternelle, coupée et vraiment scellée par le sang de l'agneau, et il n'y a rien qui peut rompre mon alliance avec Dieu, et lui, il habite à moi, et il habite en Tania, et c'est pourquoi celui qui est fidèle, celui qui est véritable habite en nous, et on est capable d'avoir cette fidélité l'un envers l'autre. Notre mariage va continuer jusqu'à la mort, et je suis sûr et certaine de cela. Il n'y a rien qui peut me convaincre autrement. Mais long, c'est pas assez. On ne veut pas juste long, on veut heureux aussi, n'est-ce pas? En fait, ça ne serait pas un bon témoignage pour le monde de voir les mariages qui vont toffer pendant 20, 30, 40 ans. Et les gens vont dire, mais vaut mieux vous divorcer, hein? Les gens qui ne comprennent pas l'alliance, ils vont juste dire, ben, il vaut mieux vous séparer, ça n'a pas de bon sens, vous êtes misérables ensemble. Est-ce que vous savez de quoi je parle? Je sais que même des personnes dans ma propre famille, il y a certaines personnes qui ont été mariées dans ma famille plus que 55 ans, mais leurs enfants disaient que, des fois, j'aurais souhaité qu'ils se divorcent parce qu'ils étaient tellement misérables ensemble. Ça, c'est pas bon non plus. Donc, on veut long, mais on veut heureux. On ne veut pas avoir un mariage qui va commencer bien, peut-être avoir quelques semaines, une lune de miel qui va durer quelques temps, et puis après, c'est la guerre. C'est vrai que le mariage peut être soit la chose la plus proche du ciel sur la terre ou la chose la plus proche de l'enfer sur la terre. Est-ce que j'ai raison? Mais qu'est-ce qu'on veut, c'est le ciel sur la terre. Et c'est pourquoi on va parler de ça aujourd'hui. Comme on a dit la semaine passée, on a fait le gâteau, mais aujourd'hui, on va faire le crémage. Et ça va être de fun. Tout le monde aime le crémage, n'est-ce pas? Et on va mettre le crémage sur la moitié du gâteau ce matin. Et l'autre moitié, on va sauver ça pour la semaine prochaine. Et on va avoir du fun ensemble. Mais juste regardez dans vos notes. Il y a un couple de choses que j'ai dit qui sont importantes à remarquer. Premièrement, Dieu nous a créés avec les besoins. Je veux que vous sachiez une chose. Avoir besoin, ce n'est pas une chose négative. Dieu nous a créés avec les besoins. Exemple, Dieu nous a créés avec le besoin de manger. N'est-ce pas? Mais un besoin qui est rencontré n'est pas un problème. Avec le besoin, il a pourvu un moyen de remplir et de rencontrer le besoin, n'est-ce pas? Vous savez, parce que des fois, dans notre tête, on pense que besoin, c'est d'avoir besoin de quelque chose, c'est négatif. C'est pas négatif. Les gens disent, mais je suis dans le besoin. Mais c'est normal, nous avons tous les besoins. Et c'est pas négatif, c'est une bonne chose parce que chaque besoin dans ce monde a une provision qui vient de Dieu. Mais c'est quand nous sommes séparés d'avec la provision que le besoin est problématique. Quand j'ai besoin de manger, il n'y a rien à manger, ça c'est un problème. J'ai besoin de respirer, mais il n'y a plus d'oxygène, c'est un problème. Et quand j'ai besoin d'être en relation avec quelqu'un, parce qu'en réalité, Dieu nous a créés avec le besoin d'être en relation avec les autres êtres humains. Ce n'est pas tout le monde qui a besoin d'être marié pour être heureux. OK? Mais tout le monde a besoin d'être en relation avec les autres pour être heureux. Ça, c'est important. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il a créé l'homme avec un besoin d'être en relation avec les autres. Et la plupart des gens vont combler ce besoin primordialement avec quelqu'un du sexe opposé dans le contexte d'un mariage, une alliance qui ne peut pas être rompue. Ça, c'est vraiment le plan de Dieu pour la plupart des gens. Mais il y a quelques-uns qui sont appelés à vivre une vie célibataire. Et ça, c'est pas mauvais. Et des personnes qui sont célibataires peuvent être aussi heureux et des fois même l'apôtre Paul a dit plus heureux que ceux qui sont mariés. Amen? Parce que celui qui est marié a besoin de penser qu'est-ce que je vais faire pour prendre soin de mon épouse ou mon mari. J'ai besoin de rencontrer ses besoins. Pourtant, la personne qui est célibataire, il a juste à s'occuper du Seigneur. OK? Et ses amis, et ses frères et ses sœurs dans le Seigneur, bien entendu. Donc, il y a vraiment quelque chose que je voulais dire, c'est que ce message, les principes s'appliquent à tout le monde, même si vous êtes célibataire, certains principes qui s'appliquent à tout le monde. Amen. Pourtant, on sait que la plupart des gens sur la planète sont appelés et supposés d'être mariés avec quelqu'un. On ne veut pas précipiter. On veut attendre, on veut trouver la bonne personne, on veut se marier dans le Seigneur pour les bonnes raisons et avec l'équipement spirituel et émotionnel nécessaire pour faire réussir le mariage. Mais qu'est-ce qu'on va dire, c'est que le bonheur dans le mariage commence quand chaque partenaire cherche à faire plaisir à son conjoint avant de chercher son propre plaisir. Ou je peux dire, si dans un mariage, si l'homme... Son idée primordiale, c'est « je vais rencontrer les besoins de mon épouse » parce qu'elle a des besoins conjugaux. C'est ça, n'est-ce pas? Et quand la femme répond en disant « mais moi, mon but numéro un, c'est de faire plaisir à mon mari et de rencontrer ses besoins conjugaux. » OK? C'est pas, si on se marie avec cette idée, bon, j'ai besoin de me marier parce que j'ai des besoins et je sais que cette femme va me combler, ou si la femme dit, oh, j'ai besoin d'un mari parce que j'ai besoin d'avoir ces choses rencontrées dans ma vie et c'est lui qui va rencontrer tous mes besoins, combler mes besoins, ça, c'est pas vraiment une bonne façon de commencer un mariage. Si on va dans le mariage comme un siphon ou comme une éponge, qui veut recevoir parce qu'on est assoiffé, on a besoin de recevoir, on va avoir de la difficulté. Mais si on entre dans une relation, l'éponge est déjà remplie, on est prêt à donner, on a quelque chose à offrir, on a quelque chose à donner parce que, premièrement, mes besoins sont rencontrés par le Seigneur. Mes yeux sont fixés sur lui. Je suis déjà une personne comblée et j'ai quelque chose à donner à mon conjoint. Là, on peut avoir la recette pour le succès dans le mariage. Amen? Mais la réalité, c'est que un homme et une femme, ils ont des besoins dans le contexte du mariage. En fait, ils ont fait des études et il y a au moins 10 besoins conjugaux qui sont communs parmi presque tous les couples. Et ils ont même dit que tous les hommes et les femmes ont besoin de ces 10 choses. Tous les deux ont besoin de ces 10 choses, mais en général, et je dis en général, c'est pas toujours le cas, on a des exceptions. En général, il y a 5 de ces besoins qui sont plus dominants chez la femme et 5 de ces besoins qui sont plus dominants chez l'homme. OK? Donc, mais 10 besoins, ils ont tous les deux besoin de ces 10 choses, mais normalement, la femme a besoin plus de ces 5 et l'homme a besoin de plus de l'autre 5. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir 5, les 5 besoins chez la femme. Les 5 choses que généralement, l'homme a besoin de ces choses aussi, mais normalement, le désir pour ces choses est plus fort chez la femme. Mais Philippiens 2, juste avant de faire ça, on va juste souligner encore le fait que notre recette pour le succès, c'est de chercher le bonheur et de chercher à faire plaisir à l'autre avant de faire plaisir à soi-même. La parole de Dieu dit, « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Donc, dans notre contexte aujourd'hui, on peut dire que chacun de vous, maris, au lieu de considérer vos propres intérêts, considérez aussi les intérêts de votre épouse. Cherchez d'abord à faire plaisir à votre femme avant de faire plaisir à vous-même. Que personne ne cherche son propre intérêt, qu'aucun mari cherche son propre intérêt, mais que chaque mari cherche celui de sa femme, on pourrait dire. C'est pas mal silencieux ce matin, hein? Est-ce que vous vous êtes endormi? Non. Donc, on voit que vraiment, selon la Bible, c'est un principe biblique dont nous avons besoin de saisir. C'est que moi en tant que mari, vous en tant que mari ou futur mari, vous avez besoin de prendre comme votre devoir de faire plaisir à votre épouse, ou on peut dire de la rendre heureuse. Ouais? Oui, c'est votre devoir numéro un dans le mariage, c'est d'aimer votre épouse et de la rendre heureuse. Et laisse-moi vous dire, c'est très spirituel de rendre votre épouse heureuse. Vous dites, oh mais, de toute façon, on est un couple très spirituel et pas besoin de ça, non. Regardons bien. Même dans l'Ancien Testament, Deutéronome 24:5 dit, « Un homme qui vient de se marier est dispensé de partir à l'armée et on ne lui imposera aucune autre charge. Il en sera libéré pendant un an. Pourquoi? Pour pouvoir se consacrer à sa maison et rendre heureuse la femme qu'il a épousée. » Dieu, c'est Dieu qui donne cette instruction. Dieu dit, un homme qui se marie, voici qu'est-ce que je veux. Vacances pendant un an de temps. Une lune de miel pendant un an de temps. Et sa responsabilité, je dirais. Numéro un, c'est pas de chercher quelque chose de sa femme, de dire, oh, chérie, rends-moi heureux, rends-moi heureux, fais quelque chose pour moi. Non, son devoir, comme homme dans le couple, c'est de rendre son épouse heureuse. Ça, c'est notre devoir. Et toutes les femmes sont très contentes de ce message. Elles éditent. Elles veulent pas dire amen trop fort, par exemple, parce que je sais que vous voulez pas offusquer vos maris. Avertissement, mesdames. Aujourd'hui, pendant ce message, l'idée, c'est pas de dire Ouais, as-tu entendu? Est-ce que tu prends des bonnes notes? Ouais. Parce que, attachez vos tucs, parce que la semaine prochaine, c'est à votre tour, hein? Et ce que vous semez, vous allez récolter. Bon. 1 Pierre 3:7. Encore, c'est la parole de Dieu, c'est tellement bon. Quant à vous, Marie, essayez de comprendre vos femmes. Et tous les hommes disent, oui, je comprends, hein? Pourquoi Dieu a dû dire cela? Essayez de comprendre vos femmes. Ayez beaucoup d'égard pour elles dans votre vie commune. Souvenez-vous qu'elles ont une nature plus fragile et plus délicate. Traitez-les avec respect et honneur. Non seulement parce qu'elles sont plus faibles, et ça c'est juste physiquement, parce que sur le plan spirituel, émotionnel, les femmes ne sont pas plus faibles, hein? Mais parce qu'elle hérite avec vous la vie éternelle que Dieu vous accorde dans sa grâce, sinon vous mettez vous-même obstacle à l'exaucement de vos prières. Je veux que vous voyez, messieurs, que si vous ne rendez pas votre épouse heureuse, que vous allez avoir de la difficulté à avoir vos prières exaucées. C'est fort, n'est-ce pas? Donc, on voit, c'est important. Essayez de comprendre. En fait, j'ai entendu un pasteur qui prêchait là-dessus. Il disait que ce mot, essayez de comprendre vos femmes dans la langue originaire, ça veut dire de vraiment faire une étude, d'étudier comme un processus scientifique, d'essayer de comprendre votre femme. Savez-vous que les femmes et les hommes ne sont pas pareils? Je sais que depuis des années, les gens parlent de unisexe et ils veulent que tout soit unisexe et les femmes disent que je suis aussi bon que l'homme et il n'y a pas vraiment de différence. Mais ça, c'est faux. Les médecins ont même prouvé qu'il y a au moins 22 000 différences physiologiques entre l'homme et la femme. 22 000 qu'ils ont découvert déjà. Les différences sont énormes. La façon qu'une femme pense n'est pas la même façon qu'un homme pense. Il y a des raisons physiques pour cela. Vous savez, parce que le cerveau d'un homme, quand il est dans le ventre de sa maman, dès que l'hormone testostérone, son cerveau est baigné dans le testostérone, et ça fait en sorte que le cerveau, littéralement, est divisé plus clairement. Un homme est plutôt logique, il va penser une chose à la fois, tandis qu'une femme est capable, les signaux entre le côté gauche et droit de son cerveau passent plus facilement, et elle est capable de penser à 10 000 choses à la fois. Non, c'est juste une réalité. J'exagère un peu quand j'ai 10 000. Mais c'est vrai qu'en général, une femme peut être en train de faire une chose, mais quand même en contact avec qu'est-ce qui se passe dans d'autres domaines. Elle pense et elle ressent les choses que souvent un homme ne ressent pas, parce qu'un homme, c'est comme travailler avec un ordinateur. Vous savez que des fois, certains ordinateurs, quand ils ont commencé avec les ordinateurs, on pouvait juste faire un programme à la fois. On pouvait ouvrir un logiciel à la fois, mais une fois terminé, on ferme cela et on ouvre une autre application, n'est-ce pas? Mais maintenant, on peut avoir avec Windows et avec le mémoire vive qu'on a à notre disposition, on peut avoir 5 ou 10 programmes qui sont en train de fonctionner tous à la fois. Une femme est plutôt comme ça. Nous, on a plutôt besoin de fermer une application avant de commencer une autre. Mais on a besoin de savoir, il y a des différences. Ça, c'est juste un exemple. Il y a des différences physiologiques, la façon qu'on pense, la façon qu'on voit les choses. Les femmes ont des forces que l'homme n'a pas, et vice-versa, n'est-ce pas? Donc, c'est pourquoi notre but aujourd'hui, c'est d'étudier un peu les besoins chez la femme. Et il y a toutes sortes de personnes. Quelqu'un m'a donné ce livre l'autre jour. Il y a un professeur, un érudit qui est un anthropologue, en fait, et grand connaisseur de femmes. Il a fait toutes sortes de recherches scientifiques, longues recherches sur les femmes. Et le titre du livre, c'est « Tout ce que l'homme sait de la femme ». Et quelqu'un m'a donné ça. Et la personne a passé des années dans les études. Et je dis, oh, ça va être intéressant. J'ai ouvert le livre et regarde. Si les pages sont blanches, il n'y a rien. Vois-tu? Il n'y a absolument rien dans le livre. Hein? Tout ce que l'homme sait de la femme, et c'est rien. L'homme ne sait rien. C'est pourquoi Pierre a dit, Marie, essayez de comprendre vos femmes. Mais c'est plus fort que ça, parce que je crois qu'on est capable de réussir. Dieu, dans sa parole, nous donne les indications et nous aide à comprendre. La femme est mystérieuse. Hein? Et laisse-moi vous, je vais vous dire, hein, comme je l'ai dit, mesdames, votre tour, c'est la semaine prochaine, OK? Il y a des choses que vous pensez savoir sur chez les hommes, mais on va vous éclairer la semaine prochaine, non? Non. Aujourd'hui, c'est notre occasion d'ouvrir les yeux comme il faut et de dire, Seigneur, enseigne-nous, montre-nous. Il y a des choses qu'on ne sait pas. Parce que si moi, en tant qu'homme, je traite ma femme comme un homme, je vais manquer la coche. Je vais avoir une épouse qui est frustrée, qui est vraiment pas heureuse. Mais si je comprends qu'elle est différente, elle a des besoins différents et je dois agir différemment avec elle, ça va changer toute notre relation. Amen. Éphésiens 5, 25 dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Donc, qu'est-ce qu'on va faire si on va vraiment aimer nos épouses comme Jésus veut? Il faut que j'aime ma femme comme Christ a aimé l'Église. Je vais prendre l'exemple chez Jésus. Je vais voir qu'est-ce que Jésus fait pour l'Église et je dois le faire pour ma femme. Amen? Et mesdames, vous allez faire la même chose. Vous allez voir comment l'Église est supposée de répondre à Jésus et vous allez faire la même chose pour votre mari. Et si moi j'agis envers mon épouse comme Christ agit envers l'Église, et si toutes les femmes qui sont mariées vont faire en sorte qu'ils vont répondre à leur mari comme l'Église est supposée de répondre à Jésus, là on va voir le ciel sur la terre. Première chose que j'ai besoin de faire, que nous avons besoin de faire, si on veut rendre notre épouse heureuse, numéro un, donnez-lui beaucoup d'affection. Donnez-lui beaucoup d'affection. Et vous savez que l'affection, c'est pas ce que beaucoup d'hommes pensent. Souvent, quand on pense, on dit le mot affection, les hommes pensent toujours sexe. Ah oui, je sais ce qu'elle a besoin. Elle a besoin de plus de temps avec moi dans une relation sexuelle. S'il y a un problème, et c'est ça, les hommes sont bons pour vouloir, s'il n'y a jamais un problème avec son épouse, on veut réparer les choses, comme on va réparer un char, n'est-ce pas, hein? Ou quelque chose qui est brisé, bon, OK, on va réparer ça. Et souvent, les hommes pensent que, bon, le meilleur remède, c'est aller au lit, mais ce n'est pas le meilleur remède pour madame la plupart des fois. Parce que qu'est-ce qu'on va voir, c'est que pour elle d'avoir une bonne relation sexuelle qui est satisfaisante, il faut que ça soit dans l'atmosphère de l'affection. Amen. Et l'affection est différente que la sexualité. On va parler un peu plus de ça la semaine prochaine. Mais ici, en Éphésiens 5, 28, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Donc, vous voyez, Jésus, il prend soin de son Église. Et nous avons besoin de prendre soin de nos épouses. Et en fait, ils ont fait les études, et normalement, le besoin numéro un chez la femme, c'est d'avoir de l'affection, de l'attention, de savoir qu'il n'y a personne, il n'y a rien de plus important dans ce monde que moi, pour mon mari. C'est un besoin, c'est normal. Laisse-moi vous poser la question en tant que chrétien, monsieur. Est-ce que vous êtes content qu'aux yeux de Jésus-Christ, il n'y a rien, il n'y a personne plus important pour Jésus que son Église? Amen. Que l'Église de Jésus, c'est vraiment priorité numéro un? Amen. Que Jésus n'a pas une attitude, mais oui, je vous aime, mon Église, mais j'ai d'autres créatures que j'aime plus et j'ai d'autres préoccupations qui sont plus importantes pour moi. Mais je vous aime quand même. Non, ça marche pas. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et Christ aime l'Église plus que tout. Donc, c'est pourquoi votre femme doit être votre numéro un, à part Jésus lui-même. Amen. Qu'est-ce qu'on peut faire pour donner l'affection? Vous savez, il y a une chose que, il y a un livre que je vous suggère fortement à lire, c'est Les cinq langages d'amour de Gary Chapman. Je pense qu'on l'a dans la librairie ici. C'est un livre excellent qui parle du fait que chaque personne, et ça c'est bon, pas juste pour les femmes, mais pour les hommes aussi. Parce que chaque personne a un langage d'amour. Une façon qu'il va exprimer l'amour et qu'il va être capable de ressentir. Et le langage d'amour chez une personne, ce n'est pas la même chez une autre personne. OK? Et il y en a cinq langages d'amour. J'ai écrit ça dans vos notes, si vous voulez remplir les blancs. Premièrement, il y a les paroles valorisantes. Et une façon qu'on peut démontrer de l'affection, c'est qu'on peut dire les choses à notre épouse qui sont gentilles et valorisantes. Chérie, je t'aime. Chérie, je trouve que tu es la plus belle femme du monde. Et c'est vrai, par exemple. Chérie, tu es vraiment plus que j'aurais jamais pu imaginer. Et à chaque fois qu'elle fait quelque chose, laisse-moi te dire, moi je vis avec une femme incroyable. Elle est merveilleuse dans tout. Moi, je sais que je suis peut-être pas trop neutre là-dedans. Je suis pas mal catégorique. Je suis en amour avec elle. Mais elle cuisine bien, elle joue la musique bien, elle chante bien, elle est jolie, elle a du bon goût pour choisir les vêtements et tout. Moi, j'aime mon épouse. Et je peux lui dire cela. Et moi, je suis une personne, ma langage d'amour primordial, c'est les paroles valorisantes. C'est-à-dire que si j'aime quelqu'un, je vais le dire. Mais une chose que j'ai remarqué, c'est que c'est pas vraiment sa langage primordial. Et ça a causé des problèmes tôt dans notre mariage. Je vais vous expliquer comment dans une minute, parce que ça, langage d'amour primordial, c'est les actes de service. Les actes de service. Une chose qu'on peut faire pour démontrer l'affection, on voit que notre épouse a besoin d'aide, on peut apporter l'aide dont elle a besoin. On peut faire quelque chose de concret. Quelque chose qui a besoin de réparation, on peut le réparer. Elle a besoin d'aide avec la vaisselle, on peut aider à faire la vaisselle. Vous savez, il y a d'autres personnes, c'est pas les actes de service, c'est pas les paroles valorisantes, mais c'est le temps de qualité. Et ça, c'est pour elle, c'est le temps de qualité et les actes de service. Ça, c'est vraiment le langage d'amour de mon épouse. Le temps de qualité. C'est bon, tu peux me dire que tu m'aimes, tu peux faire les choses pour moi, mais si tu ne passes pas du temps avec moi, qu'est-ce que ça donne? Amen? Il y a d'autres personnes, c'est le toucher. Et moi, là, je vais dire le toucher non sexuel. Ça peut être quelque chose aussi simple que juste tenir la main de ton épouse ou de mettre ta main sur son épaule des fois, juste les petites caresses, juste le toucher. Et ça, c'est encore ma langage d'amour, c'est les paroles valorisantes et le toucher physique. Peut-être que tu vas remarquer souvent quand je donne la main à quelqu'un, je dis « Hey, comment ça va? » Je vais avoir la main sur l'épaule, ça va bien. C'est moi. Mais elle, c'était le temps de qualité, les actes de service. Donc, moi, je suis quelqu'un, j'aime écrire, je pourrais écrire des poèmes ou faire toutes sortes de choses et donner ça à mon épouse, et c'est bien, elle appréciait ça, mais ça ne touchait pas son cœur plus que ça. Mais je m'en souviens, il y avait même une fois, j'arrive à la maison après une journée de travail, ça, il y a longtemps, j'habitais toujours à Saint-Louis, et Tania a préparé un bon repas, quelque chose que j'aime, et un bon dessert que j'aime vraiment. Mais j'ai mangé ça et c'était bien, j'étais reconnaissant, mais j'ai pas vraiment dit « Oh, chérie, c'était vraiment bon, merci d'avoir fait ça pour moi ». J'ai pas vraiment réagi comme elle aurait aimé. Elle était déçue. Parce que pour elle, elle était en train d'exprimer son amour de la façon le plus profonde qu'elle pourrait. J'aime mon mari, je vais faire quelque chose que je sais qu'il aime. Je vais faire le repas qu'il aime, je vais faire le dessert qu'il aime le plus, je vais démontrer son amour. Moi, qu'est-ce que je voulais, c'était d'entendre les choses. Hé, chérie, je t'aime, tu es beau, tu es ceci, tu es cela. Je voulais entendre cela, mais elle parlait un autre langage. Elle voulait démontrer son affection pour moi avec un gâteau et un repas, mais je n'ai pas saisi. Et moi, j'essayais de lui dire toujours, 100 fois par jour, chérie, je t'aime, mais un jour, je m'en souviens, il y avait une garde-robe brisée chez nous et c'était brisé pendant X semaines. Et un jour, je me lève debout et je dis, hey, il faut que je répare ça. Et quand j'ai réparé la garde-robe, Tania dit, tu sais quoi, ça a vraiment touché mon cœur. Le fait que tu as pris le temps de réparer cela parce que tu sais, c'est une chose qui est importante à moi. Donc là, je commençais à saisir, hey, je commence à parler sa langage aussi. Amen. Et c'est important, un langage n'est pas mieux que l'autre. Mais c'est une question de découvrir qu'est-ce que la personne, comment est-ce qu'il ou elle va ressentir l'amour et on va essayer de parler sa langage. Amen. Pas juste faire qu'est-ce que tu aimes. Comme je dis, hein, elle a besoin de l'affection. C'est pourquoi les messieurs, ils font souvent l'erreur. Les messieurs, ils aiment la crème glacée à la vanille. Madame aime ça au chocolat. Elle dit, bon, mais je veux rendre ma femme heureuse, je vais lui donner la crème glacée à la vanille, à la vanille, à la vanille, à la vanille. Et c'est comme, c'est bon, chérie, ça c'est qu'est-ce que tu aimes. Mais qu'est-ce que j'aime vraiment, c'est le chocolat. OK? Et c'est surtout pourquoi j'ai dit, hein, et donnez-lui de l'affection non sexuelle, messieurs. Amen? Les femmes aiment ça aussi. Les femmes ont besoin de toutes ces choses. Mais souvent, souvent, normalement, la femme a d'abord et premièrement besoin d'affection. Deuxième chose, prenez le temps de lui parler et de l'écouter. Prenez le temps de lui parler et de l'écouter. Ça, c'est un besoin chez une femme. Une femme a besoin de parler et une femme a besoin d'être écoutée par son mari. N'oubliez pas, notre but ce matin, c'est de voir le parallèle entre Jésus-Christ et l'Église. Comme Jésus a aimé l'Église, et l'Église est la priorité numéro un, de la même façon, on a besoin de donner beaucoup d'affection à notre épouse. Mais la parole nous dit que, 1 Pierre 3:12, « Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. » Savez-vous que Dieu, quand on prie, il nous écoute, n'est-ce pas? Ses yeux sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Ce n'est pas différent dans un mariage. Les yeux du mari devraient être sur son épouse et on devrait avoir les yeux que pour notre épouse. Amen. Amen. Et on devrait avoir les oreilles qui sont attentives à ce qu'elle a besoin de dire. Écoutez. Parce que souvent, on a une tendance. Je sais que moi, j'ai eu une tendance et j'ai encore besoin de faire attention. Souvent, quand il y a quelque chose, je veux toujours donner les solutions. Ma femme a besoin de parler et au lieu de parler, c'est comme, OK, bon, je vois le problème, voici qu'est-ce que tu peux faire. Pam, 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 on donne une solution. Puis, bon, d'un on ferme ce logiciel, on commence un autre. N'est-ce pas? Mais dans le fond, c'est pas ça, elle n'a pas juste besoin d'une solution, elle a besoin de savoir que tu l'aimes et que tu veux l'écouter. Et que qu'est-ce qu'elle a à dire est importante. Et ça, c'est une chose, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile, mais on a besoin d'apprendre à écouter juste pour écouter. Amen. Et de parler juste pour parler. Mais moi, j'aime pas parler. Apprenez à parler. Amen. Alléluia. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Numéro 3, soyez en tout temps honnête et transparent avec elle. Un besoin chez la femme, c'est qu'il faut qu'elle sache que son mari est honnête et transparent en tout temps. Rien de caché. En fait, si on regarde Genèse 2, 25, l'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Ça, c'est pour moi la meilleure définition ou exemple de l'intimité qui soit. Ils étaient tous les deux nus et ils n'avaient pas honte. Pour moi, ma définition de l'intimité, c'est j'ai rien à craindre et j'ai rien à cacher. Amen? Donc, c'est vrai dans la relation sexuelle, rien à craindre, rien à cacher, pas besoin d'avoir peur que je vais être rejeté, quoi que ce soit, mais c'est vrai sur tous les plans. C'est pas juste une question d'être nu physiquement, mais il faut être nu émotionnellement et spirituellement aussi. Votre épouse a besoin de savoir que vous êtes honnête et transparent et que vous ne cachez rien. Moi, on a toujours, Tanya et moi, en règle dans notre mariage, il n'y a pas de secret entre nous. Il n'y en a pas. Si elle veut savoir quelque chose, elle peut le savoir. Et souvent même, je vais prendre le premier pas pour lui dire tout. Il n'y a rien de caché. Il n'y a rien à craindre. Amen? Donc, en fait, c'est intéressant, en Apocalypse 3, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné, ça c'est en Jean 5, 20, pardon, Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Tout le monde dit le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ, celui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Et si nous sommes nés de Dieu, nous sommes véritables aussi. Amen. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est pas un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Donc on voit l'importance d'être honnête, transparent, de ne pas cacher les choses de notre épouse. Cachez pas vos émotions. Cachez pas vos combats. Cachez pas les difficultés. Cachez pas les choses qui vont pas. Cachez rien. Amen. Ça va vous protéger. Ça va vous fortifier. Amen. Et essayez d'être honnête. Si vous dites quelque chose, gardez votre promesse. Amen. Et on peut tous améliorer certains domaines, je sais. Moi, j'ai eu vraiment une conviction de l'Esprit-Saint une fois et j'ai vraiment besoin de travailler là-dessus. Si je dis à mon épouse, par exemple, que je vais être à la maison à une telle heure, il faut que je fasse des efforts pour être là à une telle heure. Il faut que ma parole soit digne de confiance, même avec mon épouse. Amen. Parce que souvent, il y avait quelques années où elle savait que s'il me dit telle heure, j'ajoute 30 minutes. Est-ce que je peux être honnête avec vous ce matin? Hey, j'avais toujours des bonnes raisons aussi. Souvent, des personnes qui appellent à la dernière minute, des personnes, oh, mais pasteur, j'ai besoin de juste une autre chose de plus, et ah, blablabla. Mais au moment donné, c'est comme, j'ai dit à ma femme que je serai là, il faut que je sois là. Hein? Je ne suis pas toujours parfait là-dedans, tu peux lui demander. Des fois, je manque des fois, mais je suis beaucoup mieux que j'étais. Hein? Mais ça fait partie de l'honnêteté et la transparence aussi. Que si on dit quelque chose, dis pas à ta femme que tu vas faire une chose si tu n'as pas l'intention de le faire. Garde tes promesses, garde ta parole, cache rien de votre épouse, et vous allez voir, ça va rencontrer un besoin chez elle. Amen? Numéro 4, il y avait une petite faute de frappe, mais je voulais dire, soyez en tout temps généreux avec elle. Pourquoi? Parce qu'une femme a besoin d'une sécurité financière. Et je sais que dans toutes ces choses, on est tous en route. On est tous en route et des fois les hommes peuvent se sentir comme culpabilisés. « Ah, mais c'est vrai que des fois moi aussi j'ai exagéré les choses avec mon épouse, ou des fois, je n'ai pas démontré beaucoup d'affection à mon épouse, ou des fois, je ne pourvois pas bien à ses besoins. » Qu'est-ce qui est important? C'est votre cœur, votre désir, votre vouloir. On passe tous par des moments où on fait notre possible, et notre possible n'est pas assez. Amen? On a tous des moments, l'apôtre Paul a eu des moments où il était dans la disette, il avait des difficultés financières, il avait d'autres moments, il a eu de l'abondance, il a dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Mais qu'est-ce qu'on parle ici? C'est surtout l'attitude du cœur, qu'on devrait avoir une attitude envers notre épouse qui est généreuse. Pense à Jésus, aimez votre épouse comme Jésus a aimé l'Église. Qu'est-ce que Jésus a donné pour son Église? Toutes choses sont à toi. Toutes choses, une vie abondante. Et des fois, c'est pas bon si on a un monsieur qui est gratteux. Et qui pense, oh, mais c'est un peu exagéré, ma femme, de toute façon. Non, on a besoin de démontrer à notre épouse la générosité de Dieu. Amen. Et on a besoin de démontrer au monde que notre Seigneur est généreux avec nous, comme je suis généreux avec mon épouse. Je ne dis pas que vous avez besoin d'être milliardaire ou millionnaire, mais dans votre cœur, votre attitude du cœur, faites des efforts pour pourvoir à ses besoins. Hein? Il y a des hommes qui sont très contents de laisser madame aller travailler et ils s'assoient sur le divan et ils regardent la télévision, ils mangent des chips et tout est beau. Hein? Il y a d'autres personnes ils se contentent d'avoir juste assez quand ils ont la capacité d'aller travailler et gagner plus. OK? Et là, encore, chaque personne est différente. Le niveau de prospérité peut être différent chez une personne que chez une autre. Mais encore, c'est l'attitude. Est-ce que vous avez un cœur généreux ou gratteux envers votre épouse? Est-ce que vous voulez qu'elle soit bénie? Est-ce que vous voulez qu'elle ait des belles vêtements des fois? Vous savez, Dieu veut qu'on soit bien. Toujours de quoi satisfaire nos besoins avec un superflu. Donc, je crois que c'est important. Il y a des versets de la parole qui sont ici, qui dit, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Et c'est ça que Dieu fait pour l'Église, c'est ce que nous devons faire pour nos épouses, n'est-ce pas? Pourvoir à tous leurs besoins selon la richesse que le Seigneur nous accorde. Amen. Comme la parole dit, de Dieu dit, « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même, il prend soin de vous. » Je pense qu'il y a un principe ici qu'on a manqué. Même dans notre société, on a cette image que autrefois, c'était toujours l'idée que l'homme devrait aller gagner le pain pour la famille. Est-ce que je suis contre l'idée que les femmes travaillent? Non. Mais en quelque part, on a quand même cette image de Dieu qu'on court le risque de perdre. Que l'homme est supposé quand même d'avoir un cœur pour sa famille et de pourvoir pour sa famille. Amen. Donc, ici, on peut continuer. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de sa famille, il a renié la foi. Il est pire qu'un infidèle. Ça, c'est fort, n'est-ce pas? En Timothée 6, 17, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance, tout le monde dit abondance, toutes choses pour que nous en jouissions. Donc, la volonté de Dieu, c'est que nous ayons toutes choses avec abondance. Donc, dans la mesure de possible, messieurs, je crois qu'on devrait avoir cette attitude. Je veux pourvoir aux besoins de mon épouse. Je veux. Et qu'est-ce qui est vraiment triste, c'est quand on voit certains messieurs qui sont prêts à dépenser beaucoup d'argent sur leurs jouets. C'est vrai, hein? Parce qu'il y a la seule différence entre les garçons et les hommes, c'est le prix de leurs jouets, souvent. Et souvent, ils vont dire, mais on ne peut pas se permettre que ma femme achète une nouvelle robe, ou qu'on ne peut pas aller manger au restaurant, je ne peux pas acheter une fleur pour ma femme, mais on peut acheter des billets pour un match de hockey, on peut aller jouer au golf, on peut aller à la pêche, on peut aller jouer au hockey, on peut faire toutes ces choses que les hommes, oh, mais je ne peux pas me priver de ça, j'ai besoin de vivre. Mais votre épouse a besoin de vivre aussi. Et elle a besoin de vivre, elle a besoin d'être convaincue que mon mari m'aime et il veut pourvoir mes besoins. OK? Et encore, je sais que certaines personnes veulent, mais ils ne peuvent pas. À cause de différents X, pour X raisons, ils sont dans des difficultés. Mais ça, c'est une autre histoire. Laisse pas la culpabilité vous déranger, mais juste mettez votre confiance en Dieu et il va pourvoir tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Numéro 5, on va finir ici, messieurs. Démontrez d'une façon pratique et régulière votre engagement envers la famille. Une femme a besoin de savoir que son mari est engagé envers la famille. Elle a besoin de savoir qu'il ne veut pas juste être un bon mari, mais un bon père aussi. Parce que souvent, les hommes, ils ont cette attitude, « Bon, la petite femme, elle va rester nu-pied et enceinte et elle va avoir les enfants, c'est elle qui va changer les couches, c'est elle qui va s'occuper des enfants et moi je vais aller travailler et jouer avec mes amis. » N'est-ce pas vrai? Il y a même des hommes qui disent, mais moi les bébés, le petit bébé, ça ne m'intéresse pas. Une fois rendu plus grand, une fois que toutes les couches sont changées, là je vais peut-être développer un rapport avec mon fils, on va faire des choses ensemble, les choses d'homme. Mais maintenant, c'est un truc de femme. C'est pas bon, ça. Oui, une femme, principalement, selon la parole de Dieu, a une responsabilité principale pour prendre soin de ses enfants, mais je pense qu'il est important que la femme sache que son mari est engagé. Parce que, dans le fond, c'est pas ses enfants, c'est nos enfants. Amen? Nous avons amené ses enfants dans le Seigneur, dans ce monde, et nous avons besoin de prendre soin d'eux. Donc, il y a trois choses pratiques. On parlait des choses pratiques qu'on peut faire pour souligner notre engagement envers la famille. Premièrement, soyez le leader spirituel de votre foyer. Laissez pas la vie spirituelle entre les mains de votre épouse. c'est triste de savoir, et c'est une réalité que dans la plupart des églises, ici c'est un peu différent, gloire à Dieu, mais la plupart des églises, le plus grand pourcentage des membres d'église sont des femmes. Et c'est les femmes qui prient, c'est les femmes qui sont plus spirituelles. Mais Dieu veut que nous, les hommes, on prend notre place comme leaders spirituels du foyer. Et mesdames, laisse votre mari le faire. Amen. Ah oui, mais moi, je sais plus que lui. Ça fait rien, donne-lui la place. Donne-lui l'honneur dont il a besoin. On va parler de ça la semaine prochaine. En fait, on lit dans les Cantiques des Cantiques qu'est-ce que l'épouse a dit. Elle a dit, « Rends-moi par la main. » Entraîne-moi et courons. Tu es mon roi, conduis-moi dans ta chambre, rends-nous follement heureux, tous les deux. Mais remarque bien, il a dit, la femme a dit à l'homme, rends-moi par la main et entraîne-moi et courons. C'est-à-dire, sois le leader, entraîne-moi. Et la plupart des femmes, on veut pas le traîner, hein, mais on veut l'entraîner. On veut diriger, on veut prendre l'initiative de dire, tu sais chérie, on peut prier ensemble, on peut aller à l'église, soyez la première personne qui dit, on va à l'église, on va lire la Bible ensemble, on va prier. Amen. Soyez le leader spirituel de la famille. Prenez votre place par rapport à l'éducation et les disciplines des enfants. Éphésiens 6, 4 dit, « Vous, les parents, n'exaspérez pas vos enfants par une sévérité excessive, afin qu'ils ne conçoivent pas d'amer ressentiment contre vous. Éduquez-les comme le Seigneur nous éduque, en vous inspirant de ses conseils pour les avertir et les reprendre. Élevez-les dans une discipline aimante que le Seigneur puisse approuver. » Amen. Mais nous, les pères, on a besoin de jouer un rôle. On a besoin d'être présent pour nos enfants. Et ça va soulager l'épouse aussi. Amen. Est-ce que c'est vrai, mesdames? Oui. Et puis, finalement, ne négligez pas, ça c'est une chose pratique, ne négligez pas les réparations et l'état de votre demeure. On parle d'aimer notre épouse comme Christ aimait l'Église. Intéressant que Jésus a dit, Jean 14, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. » Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Je trouve qu'il est normal et naturel pour un homme de vouloir pourvoir une demeure pour son épouse. Amen. Hier, mes deux enfants, mes deux plus jeunes jouaient à la maison. Lorraine jouait avec les poupées et voulait que John joue au papa. Donc, Lorraine à chercher tous les bébés, les poupées, les amis dans la petite lit, et elle faisait toutes sortes de choses. Mais John, qu'est-ce qu'il faisait? Il a construit une maison. Il a dit, « Hey, papa, je pense que je serais un bon constructeur, hein? Regarde ma maison. » Il construisait ça avec les draps et puis les couvertures par terre. Il avait un salon, une cuisine. Il avait toutes les pièces et c'était bien. Et puis Lorraine l'a décoré, hein? Mais Jésus est allé nous préparer une place. C'est lui qui est notre mari, n'est-ce pas? Et je pense qu'il y a quelque chose dans notre devoir envers notre... On a besoin de pourvoir une place. On n'a pas besoin d'un château, mais on a besoin quand même de mettre une priorité sur une bonne demeure pour notre épouse. Amen. Je pense que ça fait partie aussi de notre devoir en tant que mari. Jésus l'a fait pour l'Église. On devrait le faire. Pas une question de dire, ah, oh, mais c'est pas grave. Pas besoin d'acheter des rideaux. Pas besoin de décorer. De toute façon, c'est juste temporaire ici sur la terre. Une femme, d'habitude, a besoin de sentir que mon mari est engagé envers la famille. Les enfants, moi-même, mais aussi la maison. Ça, c'est une chose que j'ai dû travailler aussi. Parce que moi, il y a quelques années, j'étais vraiment pas du tout manuel. J'aimais pas ça. J'ai jamais eu un père pour me montrer des choses. Beaucoup, beaucoup. Et puis, j'ai dû prendre une décision. Non. S'il y a quelque chose qui est brisé dans la maison, je vais le réparer. Je vais apprendre ces choses. J'ai dû acheter des scies et des marteaux, les choses de même. Et maintenant, j'aime ça. C'est fun. Je suis pas tellement bon, mais je suis pas pire non plus. Mais c'est des petites choses encore que, surtout pour mon épouse qui, c'est des actes de service, elle aime ça. De voir que, hey, il y a des choses qui sont en ordre, que les pelouses soient tendues. Amen. Des choses simples, mais ça dit, je t'aime, ma femme. Je veux que ta demeure soit une belle place. Amen. Et soyez fidèles dans les petites choses, et Dieu va vous confier les plus grandes. mais je n'ai qu'une petite chambre. Soyez fidèles à votre chambre. Quand on s'est marié, on vivait avec dans la maison avec mon frère. Même. Et il y avait un garage qui était transformé en chambre et on vivait dans une chambre. Mais on a pris soin de notre chambre. Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur est bon. Donc, messieurs, aimez votre épouse comme Christ a aimé l'Église. Et s'est donné lui-même pour elle. Prenez l'exemple. Faites pour votre épouse qu'est-ce que Jésus a fait et qu'est-ce qu'il fait pour nous. Et vous allez voir, votre épouse va être heureuse. Il y a d'autres besoins qu'elle a. Les 5 besoins qui sont le top sur votre liste, elle en a besoin aussi. Vous, vous avez besoin de ces choses aussi, les choses que j'ai mentionnées. Vous avez besoin de l'affection. Vous avez besoin d'être écouté, de parler aussi. Mais c'est un peu différent. Mais on va voir cela. On a mis la crémage sur la moitié du gâteau aujourd'hui. On va mettre l'autre moitié la semaine prochaine. Amen. Si Jean-Charles peut venir au clavier. Oui. Oh, le 5e langage d'amour, je n'ai pas donné, c'est les cadeaux. Ce n'est pas nécessaire que ce soit un cadeau cher et dispendieux non plus. Ça peut être quelque chose de simple. Quand on s'est marié, ma femme avait vraiment, elle aimait les petits bonbons Skittles. Vous avez vu les Skittles? Et des fois, elle aimait vraiment ça. Des fois, j'ai acheté juste un petit paquet de Skittles, j'ai amené ça comme cadeau, elle aimait ça tellement. Maintenant, on essaie de garder la ligne, on ne mange plus des bonbons, mais... Donc, quand on parle des cadeaux, ce n'est pas toujours des choses chères. Pas besoin d'aller acheter une bague... diamant, à moins que vous avez les moyens, ça serait peut-être une bonne idée. Et tous les madames disent, oui, amen. Laisse faire le quatre roues et achète-moi des bijoux. Changez le quatre roues pour les bijoux. Ça rime même, n'est-ce pas? Encore, la question de votre épouse veut savoir, qu'est-ce que vous aimez plus? Le quatre roues, moi. Qu'est-ce que vous aimez plus? Remplissez le blanc. Je commençais à dire les choses, mais je sais que je vais marcher sur les nuances si je dis ça. Remplissez vos propres blancs. Merci Père Céleste, au nom de Jésus, nous te remercions car tu es bon. Seigneur, on a vu les choses pratiques ce matin. On ne veut pas être les auditeurs oublieux, mais on veut être ceux et celles qui mettent ces choses en pratique. On veut avoir les femmes heureuses. Les épouses heureuses, Seigneur, et on sait que tu nous as donné une grande responsabilité de les aimer comme tu nous as aimés, avec le même amour, le même engagement, avec la même passion et affection. Merci, Père Céleste. Encore, je ressens dans mon cœur le besoin de prier pour certaines personnes qui peuvent être présentes, qui se sentent peut-être... C'est quoi le mot que je cherche? Parce qu'il y a deux choses. Il y a certains angles, la conviction de l'Esprit Saint travaille votre cœur, et ça, c'est une bonne chose. Vous avez besoin de céder à cela et dire, oui, Seigneur, change mon cœur, change mon comportement. Il y a d'autres personnes que vous ressentez peut-être la condamnation. Ça, c'est pas bon. Parce que vous avez fait des erreurs dans le passé. Ça, c'est sous le sang de Jésus. Donc, Père, au nom de Jésus, merci pour ton pardon pour nos erreurs du passé. Merci, Seigneur, que on peut avoir un nouveau départ aujourd'hui. On peut te faire confiance, Seigneur. Et tu peux nous aider, au nom de Jésus, à rendre nos épouses heureuses. Et pour ceux qui ne sont pas mariés, qui veulent se marier, merci, Seigneur, que ces choses vont les aider dans le futur. Il y a d'autres, Seigneur, qui... Peut-être c'est le plan que tu as pour eux qui restent célibataires, mais Seigneur, quand même, il y a des principes aujourd'hui, les principes qu'on a vus, de démontrer quand même de l'affection, d'écouter et entendre les gens. Seigneur, toutes ces choses peuvent être appliquées dans nos vies. Au nom de Jésus, merci Père Céleste. Guérison, restauration dans les mariages. Guérison, restauration, au nom de Jésus. Mesdames, prenez pas ce message comme une excuse de critiquer votre mari. Je vous donne un avertissement, c'est fort dans mon esprit. prenez pas ce message, laissez le Saint-Esprit travailler. Jouez pas le rôle de l'Esprit Saint. Si votre mari vous pose la question du chéri, est-ce que je peux faire un meilleur job? Répondez, mais avec tendresse et douceur. Faites attention parce que c'est pas évident des fois. C'est pas naturel, c'est surnaturel. Merci, Père Céleste. Au nom de Jésus. Seigneur, c'est une grande responsabilité que tu as donnée.